Bonjour. Alors, qui parmi vous était né en 1958? Pas mal de mains se lèvent. Qui se souvient des titres des journaux au matin du 5 avril? 68. Personne? Alors, c'est 5 avril 68, c'est le lendemain de l'assassinat de Martin Luther King. Donc, mercredi dernier, on en commémorait les 50 ans. Il avait passé une quinzaine d'années à militer de manière non violente pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, à œuvrer pour la paix et contre la pauvreté. Et le message de ce pasteur baptiste, prix Nobel de la paix, a marqué les consciences du monde entier. Quelques semaines avant son assassinat, il prêchait dans une église à Atlanta. Et je vais vous lire un extrait de son sermon. Alors, je vous présente mes excuses par avance, la traduction est de moi, donc voilà. De temps en temps, donc voilà ce qu'il disait. De temps en temps, je pense à ma propre mort, et je pense à mes propres funérailles. Je n'y pense pas dans un sens morbide. De temps en temps, je me demande qu'est-ce que je voudrais qu'il y soit dit. Et je vous laisse ces mots. Si l'un d'entre vous est là quand mon heure sera venue, je ne veux pas de longues funérailles. Si vous trouvez des volontaires pour prononcer mon éloge funèbre, dites-leur de ne pas parler trop longuement. De temps en temps, je me demande ce que je voudrais qu'ils disent. Dites-leur de ne pas mentionner que j'ai eu le prix Nobel. Ce n'est pas important. Dites-leur de ne pas mentionner que j'ai 3 ou 4 sans autre distinction. Ce n'est pas important. Dites-leur de ne pas mentionner où j'ai été à l'école. Je voudrais que quelqu'un mentionne ce jour-là que Martin Luther King Jr. a tenté de donner sa vie en servant les autres. Je voudrais que quelqu'un dise ce jour-là que Martin Luther King Jr. a essayé d'aimer quelqu'un. Je veux que vous disiez ce jour-là que j'ai essayé d'être juste sur la question de la guerre. Je veux que vous puissiez dire ce jour-là que j'ai essayé de nourrir les affamés. Et je veux que vous puissiez dire que ce jour-là, j'ai essayé dans ma vie de vêtir ceux qui étaient dévêtus. Je veux que vous disiez ce jour-là que j'ai essayé dans ma vie de visiter ceux qui étaient en prison. Je veux que vous disiez ce que j'ai essayé d'aimer et de servir l'humanité. Oui, si vous voulez dire que j'ai été un leader, dites que j'ai été un leader pour la justice. Dites que j'ai été un leader pour la paix. Dites que j'ai été un leader pour la droiture. Et toutes les autres choses n'auront pas d'importance. Et ensuite il dit, oui Jésus, je désire être à ta gauche ou à ta droite, non pas pour une raison égoïste, je désire être à ta gauche ou à ta droite pas en termes de royaume politique ou d'ambition, je désire être là, dans ton amour, dans la justice, dans la vérité, dans l'engagement aux autres, afin que nous puissions faire de ce vieux monde un monde nouveau. Voilà, Martin Luther King désirait avant tout la justice. Il désirait la paix, il le désirait avec amour et vérité. Il voulait, il rêvait la fraternité, il rêvait d'équité. Il vivait avec l'espérance d'un monde plus juste. Et il y œuvrait. Alors ça faisait quelques temps que je voulais partager avec vous autour du psaume 85. Et du coup, l'actualité m'a amené à me replonger dans ces textes de Martin Luther King. Et j'ai trouvé dans ce sermon une volonté de vivre ce que ce psaume nous enseigne. Alors José, si tu veux bien afficher le psaume, je vous propose qu'on le lise ensemble. Ce psaume 85. Au chef de cœur, psaume des Coréites. Éternel, tu as montré ta faveur à ton pays. Tu as rétabli Jacob. Tu as pardonné les torts de ton peuple. Tu as effacé tous ses manquements. Tu as retiré toute ta colère. Tu as réfréné ton indignation. Ô, rétablis-nous, Dieu, notre Sauveur. Mets un terme à ta colère. Vas-tu éternellement être irrité contre nous? Ton ressentiment durera-t-il d'âge en âge? Ne voudrais-tu pas nous rendre à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Fais-nous contempler ton amour, ô Éternel. Accorde-nous ton salut. Je veux écouter ce que dit Dieu. L'Éternel, c'est de paix qu'il parle à son peuple, à ceux qu'il aime. Mais qu'il ne retourne pas à tous leurs égarements. Oui, il va bientôt sauver ceux qui le révèrent, afin que sa gloire puisse demeurer bientôt dans notre pays. L'amour et la vérité vont se rencontrer. Et la justice et la paix se donneront l'accolade. La vérité germera du sein de la terre, la justice descendra des hauteurs célestes. L'Éternel lui-même nous donnera le bonheur et notre pays produira ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. » Voilà, ce texte nous parle de rétablissement, de salut. Il nous parle d'amour, de fidélité, de vérité, de justice, de paix. Probablement écrit juste avant ou juste après le retour d'exil, ce psaume est avant tout une prière, un appel au secours de Dieu. Dans les premiers versets, le psalmiste évoque les bienfaits passés, tout ce que Dieu a fait de bon pour son peuple. Il l'a rétabli, il lui a effacé tous ses péchés. Dieu est revenu de son ardente colère. Le psalmiste va alors demander à Dieu une nouvelle intervention, en reprenant les mêmes termes que dans les premiers versets. Il invite Dieu à rétablir à nouveau le peuple d'Israël. Il souhaite que le peuple puisse prendre un nouveau départ. Et dans la seconde partie, le psalmiste va exprimer sa confiance en Dieu, son espérance en ses jours meilleurs à venir. Et comment les décrit-il, ces jours meilleurs à venir? Il y a quatre éléments clés qui ressortent de ce texte. L'amour, la vérité, la justice et la paix. Ce sont ces quatre qualités-là qui donnent de l'espérance au psalmiste. L'amour, la vérité, la justice et la paix. Quatre éléments interdépendants qui sont associés à ces jours meilleurs à venir. Donc la première caractéristique, c'est l'amour. Le terme hébreu qui est utilisé, c'est kessed. On peut le traduire par amour, grâce, bonté, miséricorde. C'est la bienveillance, la grâce qui caractérisera ce temps. La deuxième caractéristique après l'amour, c'est la fidélité ou la vérité. En hébreu, emet. C'est la même racine que le mot amen, que l'on utilise pour conclure nos prières. Cela qualifie quelque chose de sûr, de stable, de digne de confiance. Le verset 11 nous dit que ces jours meilleurs à venir vont voir l'amour et la vérité se rencontrer. Une bienveillance véritable et solide. En Zacharie 7, on peut lire, au verset 9, « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Rendez des jugements conformes à la vérité. Agissez les uns envers les autres avec amour et compassion. N'exploitez pas la veuve et l'orphelin, ni l'immigré et les démunis. Ne tramez aucun mal les uns contre les autres. » L'amour et la vérité sont inscrits au projet de Dieu. Le troisième aspect après l'amour et la vérité, c'est la justice. C'est le mot de tzedek que l'on peut traduire également par droiture ou équité. C'est pas simplement la sanction envers le coupable, comme souvent on peut percevoir la justice dans les médias. Non, ici il n'est pas question uniquement de la peine à infliger. Dans la Bible, le sens est plus large. Il y a une notion de rétablissement de celui qui a été lésé. Il y a une notion de remettre la balance à l'équilibre, de restaurer ceux qui ont été spoliés. Et enfin, la quatrième caractéristique de ces jours meilleurs, c'est la paix. Et je voudrais m'intéresser avec vous plus particulièrement à cet aspect-là, la paix. Au verset 9, le psalmiste, comme un fondement de sa confiance et de son espérance, nous dit « Je veux écouter ce que dit Dieu, l'Éternel. C'est de paix qu'il parle à son peuple, à ceux qui lui sont attachés. » Alors, qu'est-ce que la paix? Le Larousse nous dit, alors le Larousse pour les plus jeunes, c'est Wikipédia, mais version papier. Le Larousse nous dit, la paix, c'est l'état de pays, de nations qui ne sont pas en guerre. Ou encore un état de groupe de personnes qui ne sont pas en querelle, en conflit. Ou l'état de quelqu'un qui jouit du calme intérieur. Le terme hébreu pour désigner la paix, vous le connaissez, j'en suis sûr, c'est shalom. Voilà. Shalom, c'est au-delà de l'absence de conflit. Le shalom, c'est les conditions de vie en paix, c'est un état de quiétude, de tranquillité, de contentement, de plénitude. C'est une relation d'amitié. Shalom, c'est ne plus avoir de dettes. C'est pouvoir se regarder droit dans les yeux en sachant que les différends du passé ont été réglés. Shalom, c'est se réjouir de voir l'autre. Et c'est pas pour rien que shalom, c'est le terme de salutation hébraïque et son équivalent arabe que je laisserai tard prononcer, qui est donc salam aleikum. C'est ce shalom-là, Cette paix-là dont il est question dans le psaume, c'est cette paix, le projet de Dieu pour nous. Au commencement, tout ce que Dieu avait créé était bon, en harmonie. Mais l'homme, face au défi d'accepter ce rôle prévu de gérant de la création, l'homme préfère l'autonomie. Et avec les conséquences désastreuses que vous connaissez et que nous racontent les premiers chapitres de la Genèse. Le projet de Dieu, cependant, reste que l'homme, librement, revienne dans son projet de paix, de plénitude. Au psaume 19, verset 11, il nous est dit « L'Éternel bénira son peuple en lui donnant la paix ». En Jérémie 29, verset 11, « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Le point commun entre ces deux versets, et même avec ceux de notre psaume, la paix est le projet de Dieu, le souhait de Dieu pour nous. Il souhaite que les hommes puissent vivre la paix avec lui. Il souhaite la paix entre les hommes également. Cependant, dans ces versets, cela reste une espérance, un avenir, un projet. Mais il y a quelque chose de plus concret qui naît. Et c'est Ésaïe qui nous en parle, par exemple. Ésaïe 9, à partir du verset 5, dans cette prophétie, donc il nous est écrit « Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. » Cet enfant qu'Ésaïe annonce, nous croyons qu'il s'agit de Jésus. Il est le Prince de la paix. C'est grâce à lui que la promesse de la paix pour les hommes peut se réaliser. Il réconcilie les hommes avec Dieu et il enseigne à vivre comme Dieu l'avait imaginé. Sa venue, sa mort, sa résurrection marquent un tournant décisif dans le projet de paix pour les hommes. C'est un nouveau départ. C'est désormais l'Église, poussée par l'action du Saint-Esprit, qui va partager ce projet de paix au monde entier. C'est la communauté de ceux qui croient au sacrifice et à la résurrection de Christ et qui veulent vivre selon son enseignement qui va porter ce projet jusqu'aux extrémités de la terre. Ce projet où Dieu cherche des hommes et des femmes qui reviennent à lui de leur plein gré pour collaborer avec lui. Et dans les psaumes déjà, nous étions invités à rechercher la paix. Au psaume 34, à partir du verset 12, « Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. » Le prophète Jérémie également nous y invite. « Travaillons à la paix de la ville où nous sommes placés, car de sa paix dépend notre paix. » Dans son enseignement également, Jésus nous en parle également. Par exemple, dans le Sermon sur la montagne, en Matthieu 5, verset 9, « Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. » Ou en Marc 9, « Le sel est utile, mais s'il perd son goût, avec quoi lui rendrez-vous sa saveur ? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. » Il ne va pas sans dire que dans les 2000 ans d'histoire qui ont suivi, les chrétiens n'ont pas toujours été à la hauteur. Si vous avez des doutes à ce sujet, vous pouvez en lire davantage dans le livre de Daniel. Daniel Coronès. Bien sûr, il y a un fossé entre notre appel et ce que nous voyons ou ce que nous sommes même en mesure de réaliser. Est-ce cependant une raison pour renoncer à essayer ? Faut-il partir vaincu d'avance ? Je pense que nous devons essayer, encore et encore, malgré nos échecs. Je crois que nous sommes appelés à être les porteurs de ce message de paix, aujourd'hui sur terre. Paix avec Dieu, paix entre les hommes. La première application concrète de ce ministère d'artisan de paix, et que le verset 11 de notre psaume nous rappelle, c'est qu'on ne peut promouvoir la paix sans la justice, et la justice sans la paix. William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, disait « Tant que des femmes pleureront, je me battrai. Tant que des enfants auront faim et froid, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique, je me battrai. Tant qu'il y aura dans la rue une fille qui se vend, je me battrai. Tant qu'il y aura des hommes en prison et qui n'en sortent que pour y retourner, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain privé de la lumière de Dieu, je me battrai. Je me battrai, je me battrai, je me battrai, je me battrai. Le champ de la justice sociale est vaste. Et même si dans nos petits villages de Péménade, Cabris ou Saint-Vallier, il y a peu de sans-abri, je suis certain que d'autres besoins sont là. La seconde application concrète de ce ministère d'artisans de paix concerne l'amour de nos ennemis. Dieu aime ses ennemis. Sinon, nous ne serions pas sauvés. Toujours dans le serment sur la montagne, en Matthieu 5, Jésus nous dit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez comme des enfants de votre Père Céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela ? Les collecteurs d'impôts n'en font-ils pas de même ? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas de même ? Votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfait comme lui. Que faisons-nous d'extraordinaire ? Comment nous comportons-nous différemment de ceux qui nous entourent ? Notre manière de vivre, en famille, au travail, dans la société, peuvent faire connaître ce projet de paix que Dieu a. Notre manière de vivre nos relations, en Église, en témoigne également. Notre manière de traverser les crises, notre gestion des conflits sont des moments, des lieux où nous sommes invités à mettre en œuvre ce projet de paix. Pas uniquement l'absence de conflits, mais retrouver des relations sincères. Bien sûr, le challenge est relevé et vous comme moi, nous avons vécu, nous connaissons des situations où le chemin est difficile. Mais par sa grâce et en son temps, Dieu nous y invite et nous équipe pour cela. L'accomplissement, la perfection n'est pas encore atteinte, mais nous avons la certitude, l'espérance solide que le royaume de Dieu va se réaliser. Nous sommes donc appelés à promouvoir, à construire, à mettre en œuvre, à témoigner de la paix autour de nous. Comment ? Je vous soumets encore quelques exemples. En cette fin de semaine, des affrontements ont lieu au Proche-Orient, entre Israéliens et Palestiniens. Je pense que dans ce conflit, en tant que chrétiens, avant de prendre position pour un camp ou l'autre, nous devons prendre position contre la violence. Dans un autre domaine, alors il n'y a pas d'élection prévue cette année, mais dans nos choix politiques, quelle place laissons-nous aux questions de justice sociale ? Quel cas faisons-nous des plus pauvres ? Des réfugiés, des prisonniers. Quelle place laissons-nous à l'amour de nos ennemis dans l'isoloir ? Nous sommes appelés à être artisans de paix. Avons-nous fait ce qui était en notre possible pour rétablir la paix dans nos vies, dans nos entourages ? Il est certain, nous ne sommes pas seuls dans une relation et tout ne dépend pas de nous. Cependant, dans bien des cas, n'oublions-nous pas de promouvoir la paix ? Dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles, dans notre assemblée peut-être même, mais nous pouvons avoir confiance. Dieu a un projet de paix, il souhaite nous impliquer dedans. Il le réalisera, nous pouvons en être certains. Nous ne changerons pas le monde, cela ne repose pas sur nos épaules seules. Mais Dieu a semé dans nos cœurs ce désir, cette espérance de paix. Nous sommes collaborateurs et collaboratrice du projet de Dieu. Le soir de la Pâque, lorsqu'il s'est montré à ses disciples, le premier mot de Jésus était « La paix soit avec vous ». En Jean 14, il a dit un peu avant « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Cette paix, je vous la souhaite. Je vous y encourage. » Soyons partie prenante de ce projet extraordinaire de Dieu, comme Martin Luther King, comme de nombreux autres, mais avant tout, à notre manière, selon nos moyens. Soyons artisans de paix. Shalom.